Et par actualité. Bonjour à vous toutes et vous tous. Comment allez-vous par ce beau jeudi 23 mars? C'est Clotilde Say qui vous parle en direct du studio de Canal M à l'organisme Vues et Voix pour vous servir. Alors aujourd'hui au Par Actualité, les titres, plus de flexibilité pour les aidants naturels et les parents. Et puis en Montérégie, victoire pour des parents d'enfants handicapés. Les Par Actualité encore, mais en région cette fois-ci, 70 élèves de l'école primaire d'une école primaire, on fait la rencontre d'un groupe d'élèves adultes de l'Association des personnes handicapées de la Chaudière. Et puis, depuis la mi-décembre, le transport adapté à Québec ne fonctionne vraiment pas bien parce qu'il a resserré ses règles. Moralité, une femme épileptique a été abandonnée dans un autobus. Les paractualités nationales et internationales, un nouveau test pour prédire l'âge d'apparition d'Alzheimer. Et en Acadie, eh bien, on se prend pour une personne handicapée le temps d'une journée. Deux entrevues aujourd'hui, deux personnes qui seront en studio avec moi. D'abord Jean-François Martin, enseignant en technique d'éducation spécialisée et instigateur du projet et père d'un jeune vivant avec la trisomie 21. Nous parlerons du projet La Gagne à Pandore. Et puis Véronique Riel d'Audition Québec, qui en est d'ailleurs la coordonnatrice, qui nous présentera cet organisme. Plus de flexibilité pour les aidants naturels et les parents. Les aidants naturels n'auront plus besoin de prouver qu'un proche doit mourir dans les 6 prochains mois pour se qualifier à un congé de compassion. Un congé de compassion pour aider un proche gravement malade et non plus forcément mourant. Un congé parental échelonné sur 18 mois pour les parents du Canada. Le gouvernement Trudeau met en place deux de ses promesses de réforme de l'assurance-emploi afin d'offrir plus de flexibilité aux familles. Mais ces promesses électorales ont aussi été ajustées depuis l'élection, de sorte qu'elles coûtent un peu moins cher à l'État. Ce sera finalement à 15 semaines de prestations d'assurance-emploi qu'auront droit les aidants naturels qui s'occupent d'un adulte, de leur famille, gravement malade ou blessé. Si l'état de leur proche venait à changer et qu'il devenait mourant, ils pourraient alors prolonger leur congé de compassion à 26 semaines en souscrivant à l'autre volet du programme. Cette nouvelle prestation d'assurance-emploi coûtera 691 millions sur 5 ans à compter de l'an prochain, puis 168 millions par année. Les libéraux avaient budgété 190 millions par année lorsqu'ils promettaient d'octroyer d'entrée de jeu un congé de 26 semaines pour s'occuper d'un proche gravement malade et non pas nécessairement mourant. En Montérégie, victoire pour des parents d'enfants handicapés. Des parents de jeunes enfants lourdement handicapés de la Montérégie pourront finalement obtenir un crédit d'impôt pour frais de garde. Revenu Québec a revu sa décision après la publication d'un reportage à TVA le 4 mars dernier, nous raconte Harold Gagné. Des parents s'étaient vus refuser un remboursement parce que le centre Petite Échelle de Longueuil offre du répit et de la stimulation à des jeunes autistes, entre autres. Il y a une éducatrice spécialisée pour chaque enfant, ce qui n'est pas conforme au modèle des CPE, où les éducatrices ont chacune la responsabilité d'un groupe d'enfants. Sans ce remboursement, pour des dépenses variant entre 5 et 7 000 $ par année, plusieurs des 70 familles risquaient de ne plus avoir recours au service de cet organisme à but non lucratif qui existe depuis une vingtaine d'années. Les familles ont fait pression sur les députés de la Montérégie en plus de faire parvenir une lettre à la ministre Lucie Charlebois le 14 décembre dernier et à Revenu Québec le 10 février. Il aura fallu ce reportage de TVA pour que le porte-parole de Revenu Québec, Stéphane Dion, nous écrive que la direction du centre Petite Échelle serait contactée. Soyez assurés que nous allons faire le maximum pour répondre aux besoins des parents concernés tout en respectant les politiques fiscales en vigueur, écrivait-il dans un courriel qui nous était adressé le 4 mars dernier. Dans une lettre envoyée il y a quelques jours à la directrice générale du centre, Isabelle Julien, Revenu Québec écrit que la dépense des parents serait donc, il me manque un mot, mais comment je vous dirais bien ça? Je ne sais pas pourquoi il n'a pas imprimé. Vous savez, parfois, les ordinateurs nous jouent des tours et ce matin, il nous en a joué plusieurs, l'ordinateur. Alors, voici donc, c'était pour deux bonnes nouvelles quand même, hein, pour des parents d'enfants handicapés ce matin. Et j'ai avec moi... Non, regardez, il peut bien sonner votre téléphone, madame, on en a vu d'autres ce matin.
c'est la moindre des choses.
J'adore avoir en studio du monde avec moi et notamment, c'est le moment de m'entretenir avec vous, Jean-François.
Oui.
Jean-François, j'aimerais... Jean-François Martin, d'ailleurs.
Exactement.
Vous êtes l'instigateur d'un projet assez fantastique dont je voudrais
Merci.
Que vous nous parliez ce matin.
Alors, le projet s'intitule « La gang à Pandore ».
OK.
Alors, c'est un projet... Ce que je veux plutôt avec ce projet-là,
oui.
c'est de permettre une sensibilisation à une société plus inclusive.
Oui.
Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas quelque chose qui va marier plusieurs défis à l'intérieur d'une société? Alors, j'ai pensé à une course.
Oui.
Une course qui va se dérouler de Montréal vers Ottawa. Et on va arrêter au Parlement, en espérant que M. Trudeau soit là avec ses shorts pour venir courir avec nous. Ça serait génial, ça. Alors, je lance l'invitation sur
Mais,
les ondes.
Mme Grégoire pourrait peut-être vous chanter une petite chanson.
N'importe qui. Nous autres, nous sommes prêts à prendre de tout le monde avec nous. Alors, on va partir. On va être plusieurs coureurs. On va avoir, entre autres, deux Joëlettes. Joëlettes qui sont des moyens de transport pour les personnes à mobilité réduite.
D'accord.
Et qui vont un peu partout avec une roue qu'on peut donc pousser et tirer.
C'est
et
génial.
On va aller en cours. C'est extraordinaire, ça. Et je vais avoir dans mes coureurs, entre autres, une personne qui a un trouble de santé mentale, une personne qui est non-voyante, une personne qui a une surdité, une personne qui a un traumatisme crânien. Donc, vraiment, je veux diversifier pour dire, ensemble, si on se mettait justement ensemble,
Mais bien sûr.
On aurait une société tellement plus agréable, tellement plus ouverte, puis on peut apprendre énormément de ces gens-là. Alors, en mettant tout ce monde-là ensemble, je me dis, tiens, on va tous travailler pour la même chose et prouver aux gens qu'une société inclusive, ben, c'est possible.
Monsieur Martin, vous êtes un ange.
Arrêtez-vous.
Ben, je sais pas.
Vous voulez appeler ma femme?
Ah ben
pour
non,
lui dire?
Justement, en tout cas, justement, c'était ma prochaine question. Je savais. Non, mais très sérieusement,
oui.
comment vous est venue l'idée de faire cela, d'aider comme ça les gens?
J'ai déjà derrière moi deux projets.
Oui.
Un projet Trisomie 21, le défi okay. Pérou, et le projet Les caravaniers de l'impossible.
C'est vous, ça.
C'est moi, ça, voilà.
Vous êtes vraiment très chouette.
Ben,
vraiment,
c'est gentil, madame.
Vraiment.
Alors, tout ça, c'est toujours des projets qui me viennent comme ça en tête. Et puis, je me dis... J'ai les capacités de mettre sur pied ce type de projet. J'ai des gens autour de moi qui veulent toujours m'accompagner puis qui me soutiennent. Et tout ça dans le sens de dire, ben il faut bouger. Parce que si on bouge pas, on blabla, puis il n'y a rien qui arrive. Donc, au moins, en bougeant, ben, on essaie de sensibiliser, on essaie de dire, hey, on existe.
Oui.
On est là, puis on peut apporter quelque chose.
Oui.
Fait que l'idée m'est venue justement avec les caravaniers de l'impossible, où j'ai... travailler avec une Joëlette, je me suis dit, hey, c'était plaisant ça. Puis moi, j'étais un coureur, j'ai dit, hey, pourquoi on ne pourrait pas marier les deux? Et voilà, ça l'a déboulé. Et puis après ça, j'ai eu plein de gens autour de moi qui ont embarqué dans le projet. Fait que l'idée est venue.
Est-ce que vous savez déjà qui sont ces gens-là ou c'est juste une idée, mais vous n'avez pas...
Je suis justement en recrutement et j'ai eu l'occasion de parler à la dame à côté de moi qui va peut-être nous soumettre une candidature pour une personne malentendante ou
Alors,
sourde.
Je voudrais quand même la présenter tout
oui.
de suite parce qu'elle va intervenir dans quelques minutes à l'émission. Remarquez, attendez, j'ai pas votre petit nom sous les yeux. Allez... Aidez-moi. Véronique
Riel.
Et nous allons parler, parce que vous êtes, on va parler un petit peu plus tard ensemble, vous êtes coordonnatrice d'Audition Québec.
Exactement.
Vous vivez vous-même avec un problème de surdité.
Oui.
Et donc, vous pourriez être intéressée,
oui,
Véronique.
Oui, on a eu la chance de discuter quelques minutes avant et
voilà.
Je trouvais vraiment le projet super intéressant.
Bon.
On a échangé nos coordonnées pour...
Ben oui,
Quand est-ce que vous feriez ça, M. Martin?
De mai 2018. Donc, ça nous laisse quand même...
Oh, okay.
Oui, puis parce qu'on sait qu'il faut faire du recrutement, il faut se préparer aussi, il faut créer le groupe. Alors, donc, excusez-moi, nous sommes au début du recrutement.
De ce processus.
Donc, on cherche. Alors, c'est pour ça que s'il y a des gens qui sont intéressés, nous, on prend les candidatures de gens qui pourraient se montrer intéressés. C'est sûr que ça nous prend des coureurs. Alors, on peut pas dire, je suis assis sur mon sofa, j'ai jamais couru, tiens, je vais aller faire ça.
Mais non.
Non, parce qu'on va quand même courir, là...
L'équivalent de combien?
D'environ, là, pour chaque coureur, là, à peu près un demi-marathon par jour pendant 5 jours. Donc, ça en fait quand même beaucoup, là. OK, on s'entend?
Véronique, vous êtes toujours partante.
C'est pour ça que j'ai dit oui, j'avais un an devant moi.
C'est ça. Mais en même temps, on est réaliste. Ça veut dire qu'on a des courants de remplacement aussi.
Oui.
Puis on va aller à un rythme qui va respecter tout le monde.
Oui.
Alors, c'est pas une course en disant « il faut qu'on arrive là tel jour à telle heure puis on gagne une médaille ». Non, c'est plutôt « on se rend là-bas, mais on veut un défi ». Donc, on veut quand même que ça soit intéressant.
Mais pourquoi pas une marche? Parce que c'est pas facile non plus de marcher.
Ah non, j'aime bien mieux courir, moi. Voyons, pourquoi marcher quand on peut courir?
Hein, Véronique? Il faut une marche. Ça aurait été suffisant.
Moi, j'adore le projet, point final.
Ben, je fais ça parce que je vais être plus âgé. Je ferai une marche à ce moment-là.
Alors, donc, on peut vous joindre
oui.
où?
Alors, moi, je suis au Cégep du Vieux-Montréal. Donc, on peut me joindre par courriel au jfmartin@cvm.qc.ca, donc Jean-François Martin en éducation spécialisée du Cégep du Vieux-Montréal. Et
d'accord.
On est très ouvert aux candidatures, aux partenariats, et je pense que ça pourrait devenir un très beau projet.
Mais oui, écoutez, j'aimerais même, j'ai hâte, on va s'en reparler à l'extérieur,
fortement.
Parce que j'aimerais, je sais pas, on pourrait être partenaire là-dedans, ce serait drôlement sympathique.
Ouais.
On pourrait envoyer Mathieu, parce que c'est bon, il va pas très bien. Alors non, c'est ça, on pourrait envoyer quelqu'un.
Ouais.
On pourrait envoyer, parce que t'es chaud. Bon, je sais pas, c'est considéré comme un handicap.
On peut
regardez,
y réfléchir. On peut
vous savez,
y réfléchir.
Moi, il y a déjà des gens qui m'ont dit qu'à cause de mon accent français, c'était une forme de handicap.
Oui, mais...
Alors, oui, mais regardez, non, ne comptez pas sur moi.
On refuse tous les Français.
Bon, ben, d'accord. Alors, je suis... Non, de toute façon, il faut que je reste au micro, moi.
Oui, voilà.
Hein? Mais ce serait peut-être sympa, je sais pas. Il va falloir qu'on y pense, mais qu'on se parle
ça
à tous les jours, par exemple.
Plaisir. Oui, hein? Ben oui, ça pourrait être effectivement.
Ça pourrait être quelque chose comme
peu,
ça,
ouais,
pour savoir qui
où
a
nous
des
en sommes.
Voilà, qui a des ampoules, qui a encore les pieds tout roses.
Qui a pris le métro pour revenir.
Qui a pris le métro pour revenir. Non, mais trêve de plaisanterie.
Oui.
Je ris, mais je ris pas. Je trouve ça absolument extraordinaire.
C'est
et oui, c'est vrai qu'on va vous supporter. Il faut faire quelque chose avec
bien.
Vous.
Oui.
Et de toute façon, déjà au départ, vous reviendrez pour nous en parler,
oui.
pour nous dire comment vont les choses.
Oui, puis peut-être présenter justement des coureurs qui pourraient m'accompagner.
Exactement.
Oui,
et puis, si on en reçoit, vous pourriez peut-être nous envoyer une petite documentation parce que nous, on pourrait en distribuer. Vous savez, on en reçoit beaucoup ici.
Ah, bien, vous avez déjà la documentation, alors, mais ça me fera plaisir d'en retourner.
C'est ça, on
si
l'a
on
déjà.
Besoin.
Bon,
oui,
ben alors, c'est parfait. Merci beaucoup,
merci
Jean-François Martin, pardon, et très, très belle fin de journée.
Merci.
Dans le cadre de la semaine de la déficience intellectuelle, 70 élèves de l'école primaire Lambert ont fait la rencontre d'un groupe d'élèves adultes de l'Association des personnes handicapées de la Chaudière. C'est sous la musique du compositeur italien Ludovico Einaudi que les élèves de l'école de l'APCHC ont composé quelques histoires sur l'intimidation et l'entraide. Elles ont été présentées lors d'une rencontre avec des élèves de l'école Lambert le 14 mars dernier. La collaboration avait pour objectif de mieux comprendre la vie de ces personnes vivant avec une déficience. Aline Carrier, enseignante du groupe de l'APCHC, croit que cette rencontre a été fort appréciée par les deux groupes qui y ont participé. Oui, on se ressemble par nos différences, conclut-elle, et ça rejoint complètement ce dont nous parlions avec M. Martin. Une nouvelle un peu moins drôle maintenant, mais qui fait aussi partie de la réalité des personnes qui vivent avec un handicap. Une personne s'est retrouvée inconsciente au garage métrobus du RTC, ça c'est à Québec, après avoir fait une crise d'épilepsie parce que le service de transport adapté de la capitale, qu'on appelle le STAC, a refusé d'aller la chercher à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'aucun transport n'est accordé à moins de 24 heures d'avis. Alors là, on nous explique, c'est Elisa Cloutier du Journal de Québec qui nous explique la situation. Depuis la mi-décembre, le STAC a resserré ses règles. Ainsi, un usager qui aurait un rendez-vous d'urgence à l'hôpital ou voudrait revenir à la maison après un passage à l'urgence ne peut plus obtenir de transport adapté dans la même journée. Pour Lydia Terrien, 32 ans, atteinte de paraplégie incomplète depuis une tentative de suicide en 2006 et, en plus, épileptique, c'est une aberration. Elle est donc paralysée des genoux aux pieds. Elle a dû se rendre à l'hôpital il y a près d'un mois après avoir été foudroyée par une crise d'épilepsie dans son entrée. C'est un passant qui a appelé les ambulanciers et elle a été vue par un médecin dès qu'elle est arrivée. Mais là où la situation s'est compliquée, c'est que lorsqu'elle a voulu revenir à la maison, le STAC lui a refusé un transport immédiat puisque maintenant, ça prend 24 heures d'avance pour le réserver. Alors, on lui a proposé de prendre le RTC. Ça, je ne sais plus, c'est un bus rapide, hein, je crois. Oui, c'est un bus rapide à Québec. Mais elle était tellement, et là, c'est son expression, lessivée en raison de la crise, qu'elle ne se sentait pas en forme pour cela. Et finalement, eh bien, elle a été obligée de prendre ce bus rapide. Et à peine elle s'est assise derrière le chauffeur, nouvelle crise d'épilepsie. Sauf que la personne ne s'est occupée d'elle. Elle est arrivée inconsciente au garage Métrobus, sur Armand-Viaud, où des employés du RTC l'ont réveillée puis renvoyée à l'hôpital, en ambulance. Aveugle et en fauteuil roulant, Daniel Marcoux a aussi appris ce resserrement des règles à ses dépens. Le 22 février dernier, le STAC lui a aussi refusé un transport pour se rendre à la pharmacie après avoir été admis en ambulance à l'hôpital L'Enfant-Jésus pour des pierres aux reins. Les usagers qui auraient besoin d'un transport adapté urgent devraient plutôt se tourner vers les services ambulanciers, estime le RTC, qui gère le service adapté à la capitale. Et c'est ce qu'a expliqué au journal la porte-parole Julie Drolet par courriel. L'achalandage au STAC ne cesse d'augmenter depuis 2013. On parle d'une hausse de 5,33%. Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades, demande « Pourquoi on coupe un service quand l'achalandage augmente ?» Va falloir que quelqu'un sorte de son bureau et explique ça, a-t-il lancé. Selon lui, cette nouvelle mesure est un exemple de coupe chez les plus petits. C'est ça donc, hein, le bus, c'est simplement le réseau de transport de la capitale, me fait savoir Mathieu, qui est quand même quelqu'un de très allumé, même s'il... Bonjour, Madame Riel, je reviens vers vous. Bonjour, Véronique.
Bonjour.
Je suis vraiment ravie. J'adore votre énergie. Hein, ça, vous avez dû, hein, Monsieur Martin, vous avez un magnifique sourire.
Merci.
Un magnifique. Et vous savez, il y a des fois où je regrette de ne pas être à la télévision. Parce que j'adorerais que les gens puissent sentir. Remarquez, je suis sûre que ça va passer à travers les ondes. Madame Riel, vous êtes coordonnatrice de Audition Québec.
Oui.
On vous remercie de vous être déplacée en studio pour nous expliquer un peu mieux ce qu'est cet organisme et quels sont les services que vous offrez.
Oui, tout à fait. Alors, oui, effectivement, Audition Québec est un organisme à but non lucratif qui a été créé il y a de ça 35 ans. On vient de fêter notre 35e oui. anniversaire. Avant, c'était un organisme qui portait un autre nom, mais que depuis le 15 juin dernier a été changé pour Audition
D'accord.
Québec. Avant, ça s'appelait l'ADSMQ, c'est-à-dire l'Association des personnes devenues sourdes et malentendantes.
Mais c'est important de le dire pour que les gens qui vous connaissaient
tout
sous l'ancienne
fait.
Appellation vous retrouvent facilement.
Tout
D'accord.
à fait, exactement. Donc, on peut quand même nous retrouver très bien maintenant sur le
D'accord.
site Internet, avec notre site Internet. Voilà, Audition Québec a vraiment comme mandat de sortir les gens ayant des problèmes d'audition, de l'isolement, de créer des activités pour elles. On parle aussi d'un service d'accompagnement s'il y a des discriminations quelconques qui existent dans le monde du travail où on a des associations avec des gens qui peuvent nous aider avec ça. Mais on travaille en général pour la population qui ont des personnes qui ont des problèmes d'audition, mm-hmm. qu'ils soient malentendantes, sourdes. On veut devenir une plateforme
oui.
De référence pour eux.
Oui, oui.
Depuis ce temps-là, et on travaille très fort.
Alors, que ce soit dans le milieu de vie sociale, familiale ou professionnelle.
Exactement, dans tous les domaines. Et c'est tous les domaines que moi, personnellement, me touchent beaucoup parce que c'est important de faire sa place malgré mm-hmm. notre handicap. C'est important de démontrer que même si on est malentendant, on peut être très fonctionnel et avoir un travail dans lequel on est heureux, surtout.
Ce
là.
Qui est votre cas, d'ailleurs, hein, Madame,
oui.
Madame Riel. Mais,
oui.
Hein, mais
oui.
Est-ce que vous avez reçu vous-même de l'aide? Est-ce que c'est une façon de rendre à votre prochain?
En fait, mon parcours est assez particulier. Je ne crois pas qu'on ait assez de 10 minutes pour en parler, mais j'ai été la première malentendante à faire un métier tel que d'être agent de la paix à Ottawa à l'époque, ce qui est un métier qui est très unorthodoxe pour une personne malentendante. Par contre, j'ai mené la bataille seule pendant très longtemps. Je l'ai fait 14 ans. Et là, la vie a fait en sorte que je suis revenue au Québec. Et vraiment, ça a été une question de, je pense, d'adon que Audition Québec est arrivée sur mon chemin.
Okay.
Alors, pour m'être battue toutes mes années tout seul,
oui.
là, je le redonne aux autres. Donc, si on
ah,
peut
oui.
dire...
Mais vous vous êtes battue quand même toute seule.
Ah oui, oui. C'était pas facile de ressortir du lot, si on veut, de pas être catégorisée comme étant juste quelqu'un qui a un handicap et qui n'est pas capable de rien faire.
Est-ce qu'on a l'impression Madame Riel, que la cause des malentendants, j'ai failli dire et je vais le dire, n'est pas la plus entendue des causes.
Ah, c'est une belle, belle comparaison, effectivement.
Je ne l'ai pas fait forcément exprès, mais c'est ce qui m'est venu.
En fait, ce qui arrive, c'est que c'est un handicap qui est tellement invisible que les gens ne réalisent pas qu'on parle d'une population, là, quand les gens vieillissent de 70 ans et plus, là, 65 % de la population auront développé un problème d'audition. Par contre, je ne veux pas mettre de côté mes jeunes, ma jeunesse, qui, eux, naissent malentendants ou avec un problème d'audition, qui ont besoin d'énormément de support à l'école, d'assistance technique et surtout de la compréhension des parents. Et je mets beaucoup d'accent là-dessus parce que ça part de l'éducation. J'ai été très chanceuse. Moi, j'ai eu deux parents qui ont été très, très forts pour m'épauler, qui ont accepté mon handicap, contrairement à d'autres personnes que j'ai vues évoluer différemment à cause de ça.
Il peut y avoir rejet, hein, bien sûr.
Ah, il y a rejet. Effectivement. Oui, hein. Je dirais que c'est moins pire dans les années maintenant parce qu'il y a tellement de sensibilisation, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, énormément.
Je suis contente quand même que vous disiez ça, que ben, non pas qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais la phrase juste avant quand même, qu'il y a beaucoup de sensibilisation. Oui. C'est pour ça, c'est que je suis contente que vous soyez tous les deux ici en studio et vous vous rencontriez parce que je trouve justement que, et heureusement, il y a tellement d'activités qui viennent maintenant de la population, de gestes civiques. C'est parce qu'à un moment donné, là, on en demande tellement de nos gouvernements, et on a raison, cela dit, mais quand on n'entend plus parler que d'austérité et de coupures, et ça oblige effectivement certaines personnes à bouger. Mais je me dis, après tout...
Bien, j'ai un motto, moi, que je maintiens à l'association, c'est d'avoir des pensées positives, c'est-à-dire de ne pas ruminer du négatif, de ne pas juste focusser sur ce qui est arrivé dans le passé également. Les membres de mon conseil d'administration également, mes bénévoles, pourraient vous dire la même chose que quand je les ai rencontrés, je me suis promenée avec un gros signe de plus, de dire là, il faut changer la mentalité, il faut vraiment penser qu'on peut devenir quelque chose de très gros et très grand. On a quand même la plateforme provinciale, donc moi, je vais l'exploiter à 300 %, vraiment.
Oui, c'est ça.
Et ça veut dire donner de l'assistance aux autres organismes qui sont régionales, qui ont la même cause, le même but, s'associer à eux. Ça, pour moi, c'est la raison pour laquelle j'existe, je pense, puis que la vie m'a amené sur ce chemin-là.
Oui, et puis je pense que vous serez d'accord avec moi. Je vois l'heure tourner. Puis, je voudrais pas. Est-ce qu'on peut arrêter la petite aiguille, s'il vous plaît, juste là? Non, on peut pas, hein, parce que je pense aussi à la bataille qu'il faut livrer au niveau du langage des signes. Il y a pas grand-chose, non. Enfin, je veux dire, oui, il y a des choses qui existent, mais... Moi, j'ai des amis qui me disent, là, c'est encore tellement pauvre à ce niveau-là. C'est parce que, vous exprimez très, très bien.
Oui,
bravo.
Je m'exprime relativement bien.
Vous avez
bien,
dû travailler fort.
Très, très fort.
Oui.
Et maintenant, j'apprends la langue des signes, justement, pour avoir un contact avec la communauté sourde.
Avec la communauté.
Elle est très forte, la communauté sourde. Il ne faut pas penser que... ils sont faibles, au contraire.
Non,
pense qu'ils ont vraiment un statut très important. Mais moi, je veux m'introduire à ça. Je veux qu'Audition Québec travaille vraiment dans les deux mondes, autant ceux des malentendants qui ont des besoins très différents que la communauté sourde. C'est important pour moi. Alors, de parler leur langue, je crois que c'est le minimum, comme je parle très bien l'anglais, en ayant vécu en Ontario. Alors, c'est sûr que si je voulais m'introduire aux anglophones, il fallait que je parle en anglais.
Eh bien, bravo. Bravo à vous deux. Encore une fois, bon, je sais que parfois, dans le milieu des handicapés, on dit qu'on n'aime pas les gens quand on dit que vous êtes inspirants. Mais que dire d'autre, enfin? Je veux dire, c'est pas... Non, mais c'est vrai, c'est difficile, quoi. Et encore une fois, alors merci à vous deux, à votre belle énergie. Merci de vous être déplacés à cette émission des Paractualités. On peut rappeler,
Oui, juste un événement important pour nous, étant donné qu'on parle d'événements. Il y a la Journée nationale de l'audition qui va avoir lieu le 2 mai prochain.
Oui.
Plusieurs organismes. On a beaucoup de partenariats. Juliana France qui arrive au Québec, c'est la première fois qu'ils vont être au Québec. Donc, c'est un projet qu'on accouche, mais qui va mettre en valeur la santé auditive, les personnes malentendantes, les personnes sourdes. Donc, tout le monde est invité à joindre à nous pour aller voir sur le site Internet.
Le 2 mai.
Le Juliana Québec, Journée nationale de l'audition le 2 mai.
Écoutez, il faut faudrait vous revoir à la fin du mois d'avril.
Je serai disponible.
On va arranger ça là, quand on va sortir tout à l'heure. Alors, merci beaucoup encore une fois.
Merci.
également, alors, à l'émission Par Actualité, qui est un petit peu chamboulée, et c'est très, très bien comme ça. Au niveau international, un nouveau test pour prédire l'âge d'apparition d'Alzheimer. Une équipe internationale de scientifiques a mis au point un test génétique qui permet de calculer l'âge probable auquel une personne risque de souffrir de la maladie d'Alzheimer. Ce test est basé sur l'analyse des mutations dans 26 gènes trouvés chez plus de 70 000 personnes de 65 ans et plus, dont 17 000 atteintes de cette dégénérescence neurologique incurable. Les autres personnes en bonne santé ont servi de groupe témoin. La plupart des tests utilisés jusqu'à présent sont basés sur des mutations du gène APOE, A-P-O-E, connu pour accroître fortement le risque d'Alzheimer. Mieux évaluer le risque génétique d'Alzheimer et l'âge d'apparition de la maladie peut aider dans la prévention et pour mieux cibler les essais cliniques en déterminant quels patients sont plus susceptibles de répondre à une nouvelle thérapie. Les neurologues pensent aussi qu'une fois que des traitements efficaces contre Alzheimer auront été découverts, il faudra les commencer le plus tôt possible avant que la maladie ne progresse et ne laisse peu de chances d'inverser les dommages au cerveau et de restaurer les capacités de la mémoire. Les auteurs relèvent que leur étude doit être validée par des recherches plus étendues et plus approfondies. Ils pointent également certaines limitations car les échantillons de population étudiés sont pour la plupart de descendance européenne. Ils pourraient ainsi ne pas être représentatifs de la fréquence d'Alzheimer et du risque génétique de cette maladie chez les autres groupes ethniques comme les Noirs ou les Hispaniques. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 36 millions de personnes dans le monde sont atteintes de démence, dont une majorité souffre de la maladie d'Alzheimer. Avec le vieillissement de la population, ce nombre devrait doubler d'ici 2030 et tripler d'ici 2050, atteignant le chiffre de 115,4 millions si aucun traitement efficace n'est découvert dans les prochaines années. Et puis en rafale maintenant, sachez si vous habitez à Montréal et que si vous êtes dans le quartier du Plateau Mont-Royal, qu'Intermarché Boyer et ses proprios ainsi que Provigo Marc Bougie présentent la campagne de l'huile 2017 au bénéfice du Raplic, dont c'est la 5e édition. Ça aura lieu du 30 mars au 9 avril 2017 inclusivement. On peut gagner à être généreux. Comme chaque année, nous nous impliquons dans la campagne annuelle du Raplic, un organisme du plateau qui défend et revendique les droits des personnes en situation de handicap. Et comme nous aimons faire des heureux, oui, nous vous avons préparé une façon de contribuer qui devrait vous plaire. Faites un don de 10$ lors de vos achats à l'Intermarché Boyer et recevez une bouteille d'huile d'olive importée d'Italie d'une valeur de 12,49$. Nous vous attendons en magasin du 30 mars au 9 avril pour participer à cette belle opération. Alors, vous participez, bien vous pouvez même en faire provision, parce que ce soit pour vous-même ou pour offrir en cadeau, vous pouvez même acheter plus de 3 bouteilles d'huile si vous le souhaitez. Et si vous habitez sur l'île de Montréal, le Raplic assurera la livraison de vos produits. Alors voilà, c'était les Par Actualité, animés par Clotilde Seille. Je vous donne rendez-vous lundi à 11h30.